Il y a des rendez-vous particuliers, il faut le reconnaître, hein. Des rendez-vous, peut-on dire, divins, sans aucun doute. Des rendez-vous divins, et je crois que cet instant-là que l'on vit maintenant, c'est un rendez-vous divin aussi. Alors on va partager ensemble quelques versets dans l'Écriture qui vont aller dans le sens de ce que l'on a entendu, à savoir que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, mais que c'est à nous de choisir. Dans l'évangile de Jean, on va revenir évidemment sur l'événement le plus marquant de l'histoire de l'humanité. L'évangile de Jean, chapitre 19, on va lire trois versets. Tout d'abord, ou plutôt le verset 17, et ensuite plusieurs versets à la suite. Jean, chapitre 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie: J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. On va s'arrêter sur les trois mots en français que Jésus a prononcé: tout est accompli. Juste ça. Ces trois mots, finalement, sont sans aucun doute une déclaration extraordinaire, certainement la déclaration, une des nombreuses déclarations qui donne beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. Tout est accompli. Imaginez donc, vous avez donné du travail à quelqu'un, il y a un gros chantier à faire. Dans votre maison, vous partez pour laisser le chantier libre et la place libre, et vous revenez une semaine plus tard ou quelques jours après, un petit peu fébrile, en disant: Il y avait tellement à faire, est-ce qu'il aura au moins pu faire sans être embarrassé, etc. Et dès que vous arrivez, l'entrepreneur vient vers vous en disant: Tout est fait. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais d'un coup, ça vous rassure, hein, n'est-ce pas? D'un coup, il y a un poids qui s'en va. Effectivement, vous rentrez dans la maison et tout est fait, parfait. Il n'y a rien à dire, tout est au cordeau, ça a été super bien fait. Tout est accompli. C'est porteur d'espoir, ce tout est accompli. C'est tout simplement pour certains comme une défaite qui sonne, mais qui n'en est pas une. Les disciples devant la croix sont affolés pour certains. Les plus proches, tels la maman de Jésus, sont complètement brisés devant la croix en se disant: Mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais comment se fait-il que Jésus est crucifié à cet endroit-là? Quel drame, quel drame! Alors évidemment, ce qui apparaît comme une défaite pour les autres, ceux qui ne voyaient pas cela comme une défaite n'imaginaient peut-être pas que c'était profondément une victoire, mais beaucoup n'entrevoyaient pas la dimension de la déclaration de Jésus: tout est accompli. Il meurt, tout est accompli. Juste avant, il a prié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains ont pensé qu'il appelait le prophète Élie à l'aide, etc. Bref, il y a eu un peu de confusion quand même à cet endroit-là. À ce moment-là, n'oubliez pas qu'il y a deux brigands, hein, de chaque côté, certains injuriés, que ce soit Christ ou que ce soit ceux qui étaient là et qui les avaient crucifiés. Bref, il devait y avoir quand même pas mal d'agitation et ce tout est accompli, ce cri qui perce quand même ce temps et ce moment particulier, beaucoup n'ont pas imaginé ce que cela pouvait représenter. Je voudrais que cet après-midi, on revienne sur le sens de la croix et réaliser que derrière cette œuvre que Jésus accomplit à la croix, on y voit là une œuvre juste, parfaite et tellement puissante. Cet après-midi, nous avons chanté, vous avez entendu ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un, c'est une œuvre puissante. Et quelque part, on a bien besoin de quelque chose de puissant pour nous retourner, pour nous renverser, hein. On se sent quelquefois bien sûr de soi et très très bien campé sur nos pieds. Il n'y a pas grand-chose qui pourra nous faire changer d'avis. L'amour de Dieu peut nous entraîner après lui et l'amour de Dieu peut tout changer dans notre vie. Et c'est ainsi que nous voyons Jésus dire « tout est accompli » et d'une certaine façon ouvrir le ciel à l'humanité tout entière. Il y a tout d'abord le tout. Tout. Dieu avait des revendications et par le sacrifice de Jésus à la croix, finalement, elles ont été satisfaites. Dieu avait des revendications. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu dira à Adam et Ève, le sol sera maudit à cause de vous, mais vous porterez en vous une malédiction également. Et cette malédiction a perduré. Il suffit de regarder autour de soi, il suffit de voir un petit peu comment les choses se passent autour de nous et on se rend bien compte que des choses ne vont pas bien, elles vont très très mal. Il y a une forme de malédiction qui s'est abattue sur les hommes. Regardez l'actualité, il est difficile de tomber sur une actualité qui ne soit pas un attentat ici, une guerre là-bas, une attaque, une cyberattaque par ici, etc. Le monde n'est pas sûr, tout sauf sûr. Le monde est en ébullition, ça c'est une évidence. Mais lorsque Jésus vient sur la terre, et au moment où il va s'en aller vers la croix, c'est-à-dire au moment où il s'en va livrer sa vie, il va prier une dernière fois et les disciples vont l'entendre. Il va s'adresser à son Père dans ce qui est rapporté dans l'évangile de Jean au chapitre 17, la prière du serviteur, la prière sacerdotale. Et voici ce qu'il dira au verset 4, en s'adressant à Dieu, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et quelques moments après, il est crucifié. Et il dit, tout est accompli. Derrière ce tout, il y a l'œuvre de Dieu qui a été satisfaite. Il y a ces revendications qui nécessitaient qu'il y ait un sacrifice pour l'offense. Une nécessité, il fallait qu'il y ait une offrande pour payer le prix, pour la rançon. Il fallait que le sang soit versé. Et Israël et le peuple d'Israël n'avaient cessé et ne cessaient d'apporter dans le temple des sacrifices et d'apporter à Dieu des victimes en holocauste, en offrande, pour réclamer de Dieu le pardon. Certaines personnes, pour obtenir le pardon d'un être cher, mais seraient prêts à faire n'importe quoi. N'importe quoi. Pour être pardonnés. Parce qu'ils ont commis une erreur, parce qu'ils ont fait quelque chose qui ne se fait pas. Mais certains paieraient cher pour qu'on leur pardonne. Eh bien, le pardon, votre pardon, le pardon de l'humanité, avait un prix très, très, très élevé. Et Jésus va jusqu'au sacrifice pour accomplir le plan de Dieu. Faudrait-il vous dire cet après-midi que le plan de Dieu ne souffre vraiment d'aucune imperfection. C'est parfait, c'est parfait. Je me souviens, il y a de nombreuses années, nous avions un ami qui avait travaillé pendant quelques mois par son entreprise sur Monaco et principalement sur une des maisons bâties pour une des princesses de Monaco. Et donc, on a eu l'occasion d'aller le trouver sur son chantier. Pas trop si on avait le droit d'y aller, mais bon, on a pu y aller. Et puis, on a pu regarder un petit peu la maison et notamment les travaux qu'il faisait. Et il nous expliquait qu'une fois que la salle de bain avait été terminée, alors tout en très précieux, très, très, très précieux, une fois que tout avait été terminé, mais c'était parfait, manque de chance, ça convenait pas. Ça convenait pas. Il y avait un truc qui avait changé entre-temps, mais les ouvriers n'avaient pas été prévenus. Donc, ils avaient fait d'après les plans. C'était parfait. Hein. Sauf que quand on est venu vérifier le travail, on a dit « Ah mais non, mais c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Non, 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 la baignoire, c'était pas là. Il fallait la mettre là. » Quelque chose comme ça, quoi. Ils ont tout cassé. Et ils ont tout refait à la perfection. J'imagine que la deuxième fois, quand on est venu vérifier le chantier, les ouvriers ont dû transpirer un bon coup. Hein. En disant, on ne va pas faire ça toute l'année quand même, hein, on ne va pas casser, refaire. Vous imaginez un peu l'histoire, c'est parfait, et puis on vous dit, ah non, non, ça ne va pas du tout. Bon, c'est vexant. Mais quand vous allez vérifier, vous avez fait refaire votre salle de bain, par exemple, et manque de chance, mais alors c'est mal fait, mais alors vraiment mal fait. Hein. c'est tordu, il n'y a rien qui est droit, on vous a mis le robinet bleu à la place du robinet rouge, vous voyez, donc de quoi vous brûlez les mains un bon coup. Bref, vous dites, mais c'est pas possible. Et là, vous regardez le patron, l'ouvrier, très, très fier de même, et là, dans vos yeux, on sent quand même un peu de dépit et puis de colère, et vous dites, mais ça va pas ça. Ils vous disent, mais pourquoi ça ne va pas? Vous ne voyez pas toutes les imperfections? Oh, c'est pas grave, eh ben, vous n'avez qu'à mettre un tapis dessus, vous n'avez qu'à faire... Non, 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 vous cassez tout, vous refaites, parce que c'est mal fait. Là, c'est normal, non? Vous feriez ça, vous, hein? Moi, je le ferais, hein? Ah oui, si vous payez, tant qu'à faire, autant que ce soit bien fait, hein? Donc, c'est mal fait, on refait. Mais quand c'est bien fait, il n'y a rien à refaire. Vous saisissez, l'œuvre de Dieu est parfaite. Est parfaite. Il n'y a rien à refaire, il n'y a rien à dire. On ne peut pas dire, non, non, mais ça, ce n'est pas très bien, mais ce n'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Mais enfin, Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait là? On ne peut pas lui dire ça, parce que son œuvre est parfaite. Tout a été accompli, tout, tout. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à un tout? Dites-moi, si c'est tout. Ben, on ne peut rien rajouter quand même, même si on essayait de faire, je ne sais pas, vœu d'imagination, on n'y arriverait pas. Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je reste dans le BTP cet après-midi. Hein. Là encore, le patron vous appelle en disant, vous pouvez venir, c'est terminé. Une semaine d'avance, mais c'est formidable. Alors vous arrivez en courant, et en fait, ce n'est pas du tout terminé. Il y en a encore pour une bonne semaine de boulot. Et là, vous dites, mais vous me prenez pour un imbécile ou quoi? Non, mais c'est presque terminé. Bon, c'est terminé ou c'est pas terminé? C'est tout ou c'est pas tout? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Elle est importante, cette phrase, parce que comprenez bien, Jésus-Christ a obéi et il a accompli la volonté de son Père. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, derrière la mort, mais tragique et terrible de Jésus à la croix, derrière ce sacrifice innocent, derrière ce sacrifice tellement injuste aux yeux des hommes par rapport à notre propre justice, derrière ce projet de mort, finalement, il y a un projet de vie, le vôtre. Il y a un projet d'avenir, le vôtre. Derrière la mort de Jésus, ça sonne finalement le glas du pouvoir du péché et ça vous assure la vie et même la vie jusque dans l'éternité. Ça, c'est le projet de Dieu. Parfait. Parfait le projet de Dieu pour vous emmener vers la vie et vers la vie éternelle. Aujourd'hui, on a tellement besoin d'espérance, on a tellement besoin de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, combien de gens ont besoin d'être restaurés, d'être arrangés, d'être rétablis, d'être... certainement amélioré, mais tout du moins reconstruit. Et ça va au-delà d'une simple pensée humaine, d'une simple volonté humaine. Dieu a des projets de paix pour vous. Dieu a des projets d'avenir. Et ça peut être quelque chose de complètement nouveau. Ce n'est pas un discours que l'on a forcément l'habitude d'entendre. Et ce n'est peut-être pas le discours que vous avez entendu jusqu'à ce jour. On peut comprendre, là encore, derrière l'œuvre que Jésus accomplit à la croix, on peut comprendre l'acharnement, mais vraiment l'acharnement morbide autour de sa naissance. Quand Jésus est né, il y a eu un déchaînement de violence, mais sans précédent. On a fait massacrer des centaines d'enfants en espérant que dans le lot, on aurait bien attrapé celui qui a été déclaré roi, celui qui a été déclaré fils de Dieu, celui dont les prophètes ont parlé et qui est né dans cette région de Judée, dans ce village de Bethléem. On a massacré des centaines d'enfants sans mettre la main sur lui. Mais quel projet abominable! On peut comprendre l'acharnement du diable à empêcher que le plan de Dieu ne s'achève, à empêcher que le plan de Dieu ne se réalise. On peut le comprendre. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est de comprendre l'acharnement des hommes à son égard. Que le diable se soit acharné contre les projets de Dieu et contre le Fils de Dieu, on peut le comprendre. Mais qu'est-ce que les hommes ont eu à faire contre Jésus pour l'emmener sur une croix et le crucifier et le condamner à mort? Crucifie-le! Crucifie-le. La foule demande la mort de Jésus devant Pilate, mais c'est un scandale. Mais ils le réclament. On comprend moins cet acharnement, à moins qu'ils n'aient été eux-mêmes aveuglés, séduits, manipulés. Et c'était effectivement ce qui s'est passé. Jésus a combien de fois reproché aux religieux de son temps d'être des hypocrites, de ne pas être vrais, de ne pas être droits, d'être tordus dans leurs pensées. Combien de fois il le leur a reproché ? Alors on peut comprendre l'agacement et la colère de ces gens-là, mais derrière tout cela, j'y vois quand même à la croix le plan du salut qui devient d'une certaine façon planétaire et universel. Finalement, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, que l'on soit d'accord ou absolument pas, que l'on y croit ou pas, le plan de Dieu a trouvé son accomplissement parfait lorsque Jésus meurt à la croix. Tout, absolument tout, a été payé à la croix par Jésus. Toutes les fautes, toutes les erreurs, tous les scandales, toutes les mauvaises attitudes, tout ce qui a entraîné notre vie dans tellement de malheurs et de souffrances, tout, absolument tout, a été pris lorsque Jésus monte sur cette croix et lorsqu'il livre sa vie. Et puis il est dit, tout est, du verbe être, accompli. Tout est accompli. On va revenir sur d'autres passages, et le premier d'entre eux se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Épître aux Hébreux, chapitre 10, et verset 11, il est dit ceci. « Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, en parlant de Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Je reviens sur ce mot « toujours ». Toutes les promesses de Dieu, entendez bien, sont à conjuguer au présent. Présent. La langue française est ainsi faite qu'on a tellement de conjugaisons. Certains diront pas si simple, certainement, plutôt composé, tout ce qu'on doit apprendre. C'est compliqué quand même la langue française. Les Anglais, les anglophones se sont moins enquiquinés avec la langue. Hein. C'est beaucoup plus simple. Mais alors avec Dieu, c'est encore mieux. Hein. Un seul verbe pour le définir, un seul temps. Je suis. C'est pas beau ça ? Je suis. Tout est accompli. Non pas tout sera accompli, non pas tout a été accompli, tout est accompli. On met en parallèle d'autres versets que je vous cite, ne les cherchez pas, mais je les trouve dans trois textes de l'Ancien Testament. C'est pour vous montrer la récurrence, le fait que la chose revienne de façon systématique. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, et que Moïse a quelques doutes sur cette révélation, à savoir comment je vais justifier que Dieu m'a parlé, que Dieu m'envoie pour délivrer son peuple esclave depuis des centaines d'années d'un pouvoir égyptien dominateur et cruel. Mais comment vais-je m'expliquer ? Et toi, oh Dieu, mais qui es-tu ? Comment te définir ? Et Dieu répondra à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Nous, on aurait traduit « je suis celui qui est ». Mais voilà, le mot à l'origine dit ceci, « je suis celui qui suis ». « Je suis ». Jésus reprendra le même mot pour dire « je suis le chemin, la vérité, la vie ». « Je suis la lumière du monde ». « Je suis la résurrection et la vie ». Ce ne sont que quelques exemples, mais c'est le même mot qui est repris. Et puis, les prophètes en ont parlé. Dans le livre d'Ésaïe, vous trouvez une référence à ce « je suis », dans Ésaïe au chapitre 42 et au verset 8, il est dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et enfin, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, encore cette référence « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » J'aime, franchement j'aime, me dire que mon Dieu est présent. Il n'est pas imparfait, il n'est pas futur hypothétique, il est présent. Présent par le verbe et présent par sa présence. Il est là. J'aime à me dire que quand je me réveille le matin jusqu'au soir que je me couche, et quand je suis dans la rue, et quand je vis un moment particulièrement difficile, qui n'a pas eu un problème, peut-être accident de voiture ou quoi, même dans ce moment-là tragique où on perd la conduite de la voiture, il y a un carambolage, quelque chose, je suis est avec vous. Il est là. Dieu est tout le temps là au moment des tempêtes les plus terribles. Dieu est encore là. Quand on s'en va sur une table d'opération, mais qu'on dit au revoir à tous ceux que l'on aime et on pense revenir dans une demi-heure, une heure, trois quarts d'heure. Bref, il est là. Je suis. Il est là. Quel privilège nous avons d'avoir un Dieu qui est là. Regardez l'histoire. Regardez l'archéologie, regardez tous ceux qui nous portent vers ces civilisations passées. Combien de dieux sculptés dans les murs, dans les colonnes, combien de noms gravés de divinités, mais combien des centaines, des milliers. Et qui existe encore aujourd'hui de ces dieux-là? Qui existe encore aujourd'hui de ces idoles-là? Elles sont gravées dans de la pierre, quelquefois l'érosion d'ailleurs n'en a pas laissé grand-chose. Mais l'Éternel, celui qui meurt à la croix, il dit « Tout est accompli, c'est maintenant ». Et gloire à Dieu, cet après-midi, comprenez que l'histoire a été écrite par Dieu dès le commencement et elle ne changera pas. L'Éternel est « je suis l'Éternel, je ne change pas » et le plan de Dieu s'accomplira, vous n'y changerez rien. Alors finalement, ça m'amène à vous dire que si Dieu ne change pas d'avis sur son projet éternel, toutes les solutions vous sont proposées. Quand je dis toutes, il n'y en a que deux en fait. Ça fait quand même toutes. Elles vous sont proposées. Soit, écoutez bien, c'est très simple, soit c'est le salut, la rédemption, le pardon et la justification, pour faire court. Soit c'est la perdition, la condamnation, le jugement. Et pour conclure, soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est écrit. Hein. Le plan s'accomplit. Le plan, je ne peux même pas vous dire le plan s'accomplira. Parce que ça, c'est du futur. Je vous dis, le plan s'accomplit. Là, maintenant, il s'accomplit. Et si tu n'as pas fait, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu là, maintenant, dans la seconde qui vient, ce que je ne souhaiterais absolument pas vivre maintenant, vous pouvez faire un arrêt cardiaque. Je ne veux surtout pas le vivre. Surtout pas, et vous non plus. Non, mais ça peut arriver. Donc c'est maintenant le plan. C'est maintenant qu'il faut choisir la bonne direction, c'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. Alors, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas changer votre passé. C'est pas possible. Hein. Parce que, dites franchement, si on pouvait changer le passé, vous changeriez quoi, vous? Vous donneriez quoi 40 ans de moins? Non, ça fait un peu court, Maxime. Hein 40 ans de moins. Qu'est-ce que vous donneriez? Je ne sais pas. Un autre choix pour mes études? D'autres parents? Oui. D'autres difficultés? On éviterait plein de choses. Mais le passé, vous ne le referez jamais. C'est comme ça. C'est passé. C'est passé. Maintenant, il peut vous empoisonner. Hein. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident, il peut vous empoisonner encore. Alors, vous avez le choix. Soit vous essayez de vous libérer de votre passé, mais bon courage, hein, parce que d'autres ont essayé avant vous, et ce n'est pas si simple que cela. Soit vous comprenez que vous ne pouvez pas changer le passé. Vous comprenez que vous ne pourrez pas décider pour votre lendemain. D'ailleurs, il y en a bien dans la Bible qui ont fait ces choix-là. Il y a un homme de la Bible qui dit « Oh là là, j'ai amassé beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de sous, belle récolte, etc. Voilà ce que je vais faire. » Il n'a pas pu mettre en œuvre. Hein. Le soir même, dans la nuit même, il a fait un arrêt cardiaque, ça a été terminé pour lui. Tout ce qu'il avait préparé, ce sera pour qui? Donc, on ne va pas préjuger du lendemain. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Par contre, vous avez la main sur aujourd'hui. Vous avez la main sur maintenant. Vous l'avez. Quoi qu'on vous en dise, vous avez la main. Ce n'est pas vous qui décidez d'aller au ciel, mais vous pouvez faire la paix avec Dieu et c'est ça qui vous amènera au ciel. Et ça, vous avez la main pour cela. Le passé, vous ne pouvez pas. L'avenir non plus. Pour ça que Jésus dit « Tout est accompli ». Non, on l'a lu dans l'Épître aux Hébreux, il s'est assis pour toujours dans le ciel. Le plan de Dieu s'est déroulé. Le plan de Dieu s'est accompli. Et dans ce plan de Dieu qui est parfait, qui va d'un bout à l'autre, finalement, de cette éternité-là, si tant est qu'il y ait un bout d'un côté ou de l'autre, le fait est que aujourd'hui est inscrit dans le ciel. C'est une date dans le ciel. Ce 21, on est le 21, hein, 21 septembre, c'est écrit dans le ciel. Ou 22. 22, ouais. C'est écrit dans le ciel, c'est sûr. Alors aujourd'hui, qu'en sera-t-il de votre vie ? Jésus s'est assis pour toujours dans le ciel. Voulez-vous vous asseoir par la foi pour toujours dans le ciel aussi et faire la paix avec Dieu, là, maintenant ? Ou si vous ne voulez pas, vous prenez un risque insensé ? Oui, obligatoirement insensé. Parce que dit Jésus ? Tout est accompli. Accompli. Et je termine avec ce troisième mot encore dans l'Épître aux Hébreux. Il y a une autre référence toujours dans ce chapitre 10, un petit peu plus loin. Il est dit ceci au verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a pardon, c'est fait. C'est fait. Tant qu'il n'y a pas pardon, c'est pas fait. C'est pas fait. C'est-à-dire que vous êtes encore en danger, finalement. L'œuvre de Jésus à la croix a été achevée. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Elle est parfaite. On ne peut rien y rajouter. Et d'ailleurs, rien d'autre ne saurait être accepté. Hein. Quand je pense que certains imaginent aller au ciel avec quelques valises. Mais ils les ont préparées, les valises. Hein. Dans les valises, il y a toutes leurs bonnes œuvres, tout ce qu'ils ont fait. Et ils pensent ouvrir ça au ciel devant le Seigneur en disant « Regarde, j'ai fait tout cela, mais vous partirez nu comme un ver. » C'est la Bible qui le dit. Sans rien. Pas de bagage. Pas de bagage. Donc, rien dans le ciel pour votre salut ne sera accepté que le sacrifice de Jésus pour vous. Tout a été accompli là, sur la croix. Tout ce que vous faites à côté, c'est bonus ou malus, ça ne sert à rien pour votre salut. Ça ne sert à rien. Ça ne peut rien faire de mieux pour vous emmener au ciel. Alors, attention au piège de la suffisance. Je parlais de cet homme qui avait tant gagné et qui pensait qu'il était à l'abri de tout, même de la mort et du jugement, et pourtant non. Mais j'aurais pu vous parler de cette autre personne qui, elle, se voyait meilleure que les autres. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres des hommes qui sont voleurs, menteurs, ravisseurs, etc. Bref. Ah, ouais. Je pense aussi à ces gens qui sont imprégnés de religion. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Vous ne serez pas sauvés par vos œuvres, certainement pas. Et en fait, je me rends compte, et sans doute pouvez-vous vous en rendre compte aussi, c'est que le message de l'Évangile, c'est simple et clair. Vous dites à n'importe qui, tout est accompli, et vous lui demandez, c'est quel mot que tu ne comprends pas ? Il y a de fortes chances qu'il vous dise, aucun, je les comprends. Qui ne comprendrait pas ces trois mots ? Tout est accompli. C'est simple, c'est clair, c'est tellement simple. Pourtant, ça a été difficile et exigeant, hein, parce qu'il a fallu monter sur la croix, hein, et vous n'avez pas à le faire. Il a fallu que Jésus y aille. Hein. Dans le jardin, juste avant d'être livré par Judas, il a mené une bataille spirituelle et physique, mais d'un autre monde, d'un monde spirituel. Des grumeaux de sang coulaient de son front. « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. » Il y a quand même derrière cette bataille, ce combat, quelque chose de tragique, mais quelque chose d'énorme. Et pourtant, c'est gratuit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Gratuit pour nous, tellement cher aux yeux du Père. Tellement chère aux yeux du Père. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime, disait le psaume. Ouais, elle a du prix. Alors, pourquoi chercher ailleurs ? Ça ne fonctionnera pas. Pourquoi chercher encore ? Ce serait bien dommage. Encore dans l'Évangile de Jean, je conclue avec ces deux versets. Jean chapitre 14, verset 27, Jésus vous dit cet après-midi, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et puis, soyez encouragés par ce psaume, le 4e et le verset 9. J'aimerais que ce soit là votre expérience ce soir. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bien-aimé, tout est accompli. Tout est accompli. Vivons-le, vivez-le, faites-en l'expérience et soyez renouvelés encore par sa grâce.